haineux, notamment les contenus liés au terrorisme. C'est le chiffre du jour.
Oui, 5 millions de contenus liés au terrorisme ont été supprimés dans le monde par Facebook depuis le début de cette année, l'année 2020. Alors c'est un chiffre, je le précise, Facebook, justement, venant de Facebook. Alors Christophe Bigot, est-ce que ça paraît beaucoup ou c'est une goutte d'eau, ces 5 millions parmi la masse de messages, on imagine par milliards, qu'il y a sur Facebook au quotidien?
J'ai tendance à penser que c'est une goutte d'eau, parce qu'effectivement, les contrôles permettent de laisser passer pas mal de contenu. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un modèle de modération et de régulation par les plateformes, qui est le modèle de l'hébergeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modération a priori, mais c'est seulement si des messages sont signalés comme
par les internautes.
Par les internautes ou par toute personne, hein. Ça peut être aussi bien une plateforme policière. Alors pour le terrorisme, il y a quand même des exigences qui sont des exigences de vérification et de contrôle beaucoup plus proactives, mais c'est vrai que le fond du contrôle, le principe même du contrôle, c'est un contrôle a posteriori sur signalement. Alors, est-ce qu'il faut le garder ou pas? C'est une des questions qui est sur la table, je crois.
Vous voulez réagir?
Oui, chiffre pour chiffre, vous savez combien, grosso modo, Facebook enlève de messages tous les jours?
Dites-nous.
30 millions, plus ou moins.
Ah oui, donc 5 millions, c'est rien.
Surtout que c'est sur plusieurs jours, si j'ai bien compris.
Depuis
le début de l'année. C'est pour ça que ça m'amuse toujours d'entendre parler de liberté d'expression dans le monde de Facebook. Comme si on passe comme ça du monde de l'Internet, ouvert de, comme il était évoqué tout à l'heure, d'il y a 10-15 ans, au monde de Facebook. C'est pas exactement le même. C'est un monde qui est régulé par Facebook. Je suis toujours un petit peu intriguée quand on m'explique que toucher à Facebook, c'est toucher à la liberté d'expression. Comme je vous le disais, ils enlèvent 30 millions ou plus de messages.
Sur quels critères, d'ailleurs, ces messages dont vous parlez qui sont supprimés? C'est
Écoutez,
on parle de quoi?
Je suis comme tout le monde.
J'ai pas de racisme.
De tout. Éventuellement d'un ou deux seins dénudés, éventuellement d'un oignon. Récemment, on m'a parlé d'un oignon qui
aurait une forme
bizarre. Donc, si vous voulez, on parle de tout. Et donc, dire que quand on fait quelque chose de particulier, on fait une atteinte à la liberté d'expression, je pense que c'est Monsieur Zuckerberg aujourd'hui qui, il y a quelques semaines, considérait qu'avoir des propos qui contestaient la Shoah et qui considéraient que c'était de la liberté d'expression, il a changé d'avis. C'est vraiment de la liberté d'expression?
Mais alors, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est cela ou c'est l'anonymat? Parce qu'on a quand même beaucoup de politiques qui ont demandé la fin de l'anonymat sur les réseaux, encore Xavier Bertrand, en disant même qu'il fallait faire un référendum sur la Constitution. C'est quoi cette
question? Alors, sur l'anonymat, d'abord, sur Facebook, il n'y a pas d'anonymat. Puisqu'ils ont même, d'ailleurs, il y a eu une politique d'encouragement de la part de Mark Zuckerberg. Au début, on avait quelques-uns avec des pseudos. Il y a eu une tendance à rationaliser, à faire en sorte que ce soit une identité propre qui soit utilisée.
Ça, c'est toujours le cas.
C'est le cas sur Facebook.
Alors, il y a l'anonymat et le pseudonymat.
Alors, pseudonymat sur d'autres réseaux.
Alors, il y a le pseudonymat qui, en revanche, reste préservé sur plein d'autres réseaux. Mais sur Facebook, en l'occurrence, vous voyez, c'est pas tellement le cas. Pour revenir sur, on reviendra peut-être sur le débat pseudonymat-anonymat, mais pour revenir sur effectivement l'enjeu de plateformes et d'une plateforme comme Facebook, alors, certes, c'est pas n'importe quelle plateforme, mais c'est devenu des monopoles de fait pour exprimer une opinion, faire une communication et l'information, que de fait, c'est devenu un espace du débat public absolument essentiel. Vous enlevez Facebook, Twitter, un certain nombre d'autres plateformes, YouTube et autres, vous allez quand même restreindre considérablement le champ de l'expression et justement cette vague de démocratisation qui avait été offerte aux individus. Donc on ne peut pas complètement se dire c'est jamais qu'une boîte fermée. Bon, en revanche, la question que ça pose qui est terrible, c'est qu'au fond, cette régulation aujourd'hui, elle est faite. Comme vous le disiez très justement, elle est faite, mais par les autorités de Facebook, avec parfois des revirements qu'on ne pourrait pas appeler jurisprudentiels, mais qui sont très étonnants et qui par ailleurs reflètent en plus, et ça c'est un autre enjeu, reflètent la culture centrale de la plateforme. On parlait tout à l'heure de nudité. C'est pourquoi ça disparaît, parce qu'aux États-Unis, c'est vu comme étant quelque chose qui pose problème d'un point de vue moral et légal, qui ne poserait pas en
même
France.
Même sur les caricatures.
Et pourtant, c'est la même.
Facebook censurait les caricatures de Mahomet. Et censure peut-être toujours, d'ailleurs.
Et donc là, on voit bien que c'est un autre enjeu, c'est l'articulation entre des espaces qui sont nationaux pour l'essentiel dans les débats publics, avec un enjeu culturel et juridique qui est propre à l'État-nation dans lequel ça se produit. Et puis la plateforme elle-même, qui en fait est mondiale, et en même temps rattachée aux États-Unis. Donc là, il y a des conflits.
Christophe, qui régule? Des modérateurs? Des algorithmes? Comment ça se passe?
Surtout des algorithmes. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes physiques derrière les ordinateurs. Mais je crois que la modération régulation par les plateformes elles-mêmes, c'est un vrai problème, parce qu'il ne faut pas que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube qui décident des bornes de notre propre liberté d'expression. Et la liberté d'expression, elle existe aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Je veux quand même dire que en juin, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a censuré la loi Avia, a rappelé que la haine en ligne, l'une des composantes de la liberté d'expression, c'était notamment le droit d'expression des internautes eux-mêmes, le droit d'expression citoyen. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle est aussi sur cette ligne-là. Donc abandonner la régulation aux plateformes, moi, ça me choque. C'est un juge qui doit le faire.
Mais... faites-moi écouter.
Le Premier ministre. Bah, voilà. Parce qu'en attendant, on demande de mise en danger par la publication de données personnelles. Visiblement, ça existe déjà.
Oui,
depuis 2002, ça n'a jamais été appliqué.
Non, mais l'arsenal de textes est énorme. Il y en a des
tas. Tout existe, on n'utilise pas.
Mais alors, il manque la volonté politique, Christophe Bigot.
Ce qu'il faut, ce sont des moyens. Il y a, à Paris, donc, en gros, pour réguler les contenus sur le net, il y a 4 magistrats. Et en gros... On peut considérer qu'il s'occupe de tout ce qui est régulation de la liberté d'expression sur tout support en France.
C'est-à-dire un volume énorme.
Il faut arrêter la démagogie de continuer à constituer toujours de nouvelles infractions, etc., qu'on ne pourra pas mettre en œuvre. Ce qu'il faut, ce sont des moyens à mettre là-dedans. Le problème, c'est que la haute hiérarchie judiciaire, depuis une dizaine d'années, a déshabillé petit à petit les juridictions. Du droit de la presse, pour mettre les juges ailleurs, sur l'antiterrorisme, sur d'autres violences, d'autres secteurs. Mais tant qu'on n'a pas de moyens et de juges qui sont là pour sanctionner, ce n'est pas la peine de créer de nouvelles infractions.
Alors, il y a un outil, il s'appelle Pharos. On en parle avec vous, Nadia, la plateforme Pharos.
Oui, Pharos pour plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2009, qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire. Il permet aux internautes de faire cette autorégulation dont vous parliez, donc de signaler des contenus illicites publiés en ligne sont considérés comme illicites. Par exemple, les faits d'apologie du terrorisme, l'incitation à la haine, le contenu pédopornographique, et d'autres choses. Ces contenus doivent également être publics, c'est-à-dire accessibles à tous les internautes. Le volume des signalements effectués est vertigineux. La plateforme en a reçu plus de 230 000 en 2019, 230 000 signalements. La question, c'est évidemment que deviennent ces contenus une fois qu'ils ont été signalés. Alors, si les services constatent que ces contenus constituent bien une infraction à la loi française, une enquête est ouverte, le contenu est éventuellement supprimé. Pourtant, on le sait, sur cette actualité, les messages qui avaient été postés par l'assaillant de Conflans-Sainte-Honorine, on parle de messages qui avaient été postés en juillet dernier, notamment un simulacre de décapitation, n'en ont pas fait l'objet. Jusqu'à vendredi soir dernier, son compte Twitter était toujours actif. C'est même là qu'il a revendiqué l'attentat photo à l'appui. Alors la réponse à ce raté, parce que c'est clairement raté, elle se trouve peut-être du côté des moyens que vous évoquiez, qui sont alloués à Pharos. Ils sont 28 agents en France à peine pour traiter en moyenne 4000 signalements hebdomadaires en ce moment. Benoît Thulin, est-ce qu'on va enfin se décider à apporter des moyens financiers, des moyens humains à cette plateforme qui est nécessaire mais qui ne peut pas aller plus loin
que ça ? Je pense que c'est absolument clé. Vous avez raison. Il faut rajouter des moyens. Ensuite, ça ne va pas être forcément que des moyens humains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un angle mort dans ce débat public.
Lequel ?
C'est les algorithmes. Il y a un moment donné, en fait, il faut que la puissance publique, si elle est capable, le sujet, c'est comment on régule ces plateformes, comment elles se régulent elles-mêmes par des algorithmes. Pourquoi ? Twitter, au début, on l'a tous utilisé au démarrage. Vous suiviez toutes les personnes auxquelles vous étiez abonné. Bon, ça fait déjà longtemps que vous en suivez trop et que c'est un algorithme de Twitter qui comprend ce qui vous intéresse et ce qui l'intéresse de vous montrer et qui va faire le tri. Ouais. Bon, ça veut dire que, d'abord, il faut s'intéresser à ces algorithmes parce qu'ils vont vous pousser un contenu plutôt qu'un autre. Et souvent, on en a tous fait l'expérience. Vous allez sur YouTube, vous cliquez sur 2 ou 3 documentaires et assez vite, vous tombez...
D'accord, mais comment est-ce que l'algorithme va réagir à un compte Twitter qui va poster une photo de décapitation, concrètement ?
Non, mais la première chose, ça veut dire qu'il faut regarder ces algorithmes parce qu'ils poussent des mauvais contenus.
Ouais, ouais.
Donc, ils sont eux-mêmes propagateurs de cette viralité de la haine. Et aujourd'hui, c'est l'angle mort de la puissance publique.
Okay. Hein.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la justice elle-même, je crois, doit se doter de ce genre d'outils pour faire le tri, pour être capable de dire, mais nous, on va regarder cette personne, elle a posté une vidéo, tel truc, et elle l'avait fait déjà en envoyant à une autre personne. En fait, c'est des moyens qui existent aujourd'hui, hein. Ils existent, mais dans le champ du renseignement, un peu. Mais très honnêtement, je pense que dans le champ de la justice, c'est un angle mort et c'est un manque énorme.
Est-ce que vous n'avez pas été un peu, malgré vous, le symbole de l'impuissance de la puissance publique face à des plateformes comme celle-ci? Vous nous dites, voilà, il faudrait, il y a ce qu'il faut, et en fait, c'est eux qui ont la main.
Mais moi, ça fait déjà... J'ai fait un rapport en 2013 sur le sujet, sur la loyauté des plateformes, où je disais, il faut ouvrir les boîtes de plateformes, il faut qu'on monte en compétence et en puissance sur ce que sont les algorithmes, parce que c'est comme ça qu'on peut les
régler. Ils n'entendent pas.
Il faut les connaître. Et ça veut dire faire travailler des ingénieurs avec des juristes.
Et ça, là, vous nous dites, en fait, peu importe la puissance publique, si eux, ils ne changent pas, ils n'acceptent pas de changer leur système. La manière dont ils fonctionnent. On a beau essayer, s'ils ne décident pas eux-mêmes de se réformer, ça ne marchera pas.
Non, ils ne décideront pas eux-mêmes.
Non, voilà,
on va pas lui dire l'autre. C'est une plaisanterie pour enfants, ça.
Qu'est-ce qu'on leur impose?
La seule façon d'y aller, c'est effectivement d'avoir des moyens. Mais le problème qui est posé là, il se pose à tout, dans tous les domaines. C'est-à-dire que nous aurions le débat sur les places de marché et les contenus illicites, on aurait la même histoire sur l'algorithme, sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc partout, il faut de la compétence sur ces sujets pour ne pas se faire promener en permanence, parce que sinon... Pardon, c'est pas, évidemment pas mon propos, mais on fait des rapports, mais on va pas plus loin.
D'accord.
Et donc, il faut passer à la vitesse d'après. On commence, hein, mais malheureusement, pas du tout.
Dans assez vite.
Je voulais dire un mot là-dessus aussi. Mais les algorithmes, ils sont créés par des entreprises qui sont en Californie. Et la question est de savoir comment vous pouvez les contraindre à faire ça ou à montrer leurs algorithmes. Or, il est... à mon avis assez évident que jamais ces entreprises californiennes n'accepteront de montrer leurs algorithmes sur injonction d'un juge français. Ce serait une injonction qu'il faudrait faire...
Ça se passerait à quelle échelle ? Européenne ?
Ça pourrait être à l'échelle européenne s'il y avait un moyen. Et aujourd'hui, le fondement il n'existe pas. Donc il faudrait qu'il y ait déjà un fondement qui soit admis au niveau européen. Et après, il faudrait qu'une décision soit ce qu'on appelle exéquaturée aux États-Unis, c'est-à-dire soit validée par un juge américain pour contraindre ces plateformes.
Donc
techniquement, si vous voulez, on n'y est pas.
Je suis en désaccord. Je pense que là, évidemment qu'il faut le faire au niveau européen, et c'est là où les rodomontades d'un ministre qui va faire un pseudonymat, une loi, etc. Bon, il y a un moment, évidemment que le bon niveau, c'est l'Europe. 500 millions de consommateurs, d'utilisateurs européens, c'est largement le continent où les grandes plateformes gagnent le plus d'argent et sont le plus rentables.
Donc il y a un chantage à faire au niveau européen.
Il y a un rapport de force,
naturellement.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une directive européenne qui est en préparation. Il y a eu d'ailleurs une interview assez intéressante cet après-midi par Thierry Breton dans Le Monde, je crois. Qui dit, dans la directive qui est en préparation, on pourrait mettre ce genre de choses. Moi, je dis, et on doit y mettre, justement, la gouvernance des algorithmes, parce que sinon, on aura toujours un angle mort à un point aveugle dans notre réflexion. On ne peut pas, pour réguler, tous les régulateurs vous le diront, si vous voulez réguler, vous devez connaître. Si vous ne montez pas en puissance sur ce que sont les algorithmes, le pouvoir qu'ils ont,
d'accord,
vous ne pourrez pas les réguler.
Une des grandes forces de ces acteurs, c'est que les consommateurs sont globalement satisfaits. Donc, il faut effectivement leur expliquer que derrière leur satisfaction, il y a un certain nombre d'enjeux stratégiques, et c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre ce genre de débat sur la table, mais c'est pas comme ça qu'on reprendra le pouvoir, c'est en effectivement créant des rapports de force. Nous sommes un marché d'autant plus important que la Chine est en train de disparaître, et avec tout ce qu'on sait sur les rapports de force géopolitiques, et donc bien évidemment
La Chine disparaît
en tant que marché, pardon,
oui, sur cet espace-là.
Oui, donc disparaître côté marché, etc. Et donc, c'est un rapport de force que nous pouvons créer, que nous devons créer, en y mettant les moyens intellectuels, financiers, et évidemment, le droit qui va avec, parce que nous sommes un état de droit.